Y a-t-il quelque chose qui s'est passé cette semaine et qui, à mon avis, change le cours de l'histoire en France? C'était assez difficile parce que nous étions en jeûne, période de jeûne, l'Église à Bonne Nouvelle. Et c'était un jeûne qui concernait tous les médias, qui concernait tous les moyens technologiques, que ce soit portable, iPad ou tout ce que l'on veut. Et donc, moi, j'ai vraiment attendu, j'ai entendu parler de ce qui s'était passé, parce qu'en entendant les personnes parler au marché quand on fait ses courses, ou à la caisse, ou le pompiste à la station-service ou autre, il y a vraiment tout le monde a parlé de ce qui s'est passé. Vendredi, je me suis dit, je vais allumer le poste parce que j'avais des amis de l'étranger qui m'appelaient et qui me disaient où est-ce que ça en est, etc. Donc voilà, je l'ai fait. Et c'est choquant. Et la question que l'on se pose, c'est comment un pays peut-il vaincre le terrorisme. Alors on sait que cet après-midi, il va y avoir une grande manifestation, il y en a eu une hier, mais cet après-midi, il y en a une grande, il y en a une également à Paris, dans les principales villes. Et franchement, j'aimerais vous encourager à prendre le temps d'y aller. Vous savez, le nombre parle. Si vous avez 4 personnes qui manifestent, eh bien, pour que ces personnes soient remarquées, il faudra peut-être qu'elles manifestent en faisant du bruit avec un tambour, qu'elles se fassent remarquer, qu'elles attirent l'attention, ou alors qu'elles attirent l'attention à cause de la durée de leur manifestation, comme ça fait peut-être, je ne sais pas moi, 4 mois qu'il y a une personne avec une pancarte devant la préfecture, par exemple. Quelqu'un va finir par s'apercevoir. Mais quand vous avez 100 000 personnes à Nice, quand vous avez, je ne sais plus combien il y avait hier, autant de personnes, combien ? 23 000 personnes à Nice, eh bien, le nombre à lui seul parle, même s'il n'y a pas un seul mot. Donc, c'est une manifestation qui est importante, parce que c'est une manifestation qui a pour but de dire, nous sommes dans un pays où la démocratie règne, et nous avons choisi la démocratie, nous ne choisissons pas que nous soyons menés par la terreur et nous disons non au terrorisme. Personne ne sera le bienvenu en France s'il choisit la communication par le terrorisme. Ça n'est pas notre philosophie, ça n'est pas notre culture, ça n'est pas notre histoire et ça n'est pas le choix de chaque citoyen. Français ou pas d'ailleurs, ça n'est pas le choix de l'ensemble. Donc, moi je vous encourage, c'est un moyen aussi de dire merci aux forces de la sécurité, c'est un moyen de dire aux familles des victimes, eh bien, nous compatissons, nous sommes avec vous, et c'est un moyen de dire aux politiques, eh bien, nous confirmons que nous avons choisi la liberté. Maintenant, la vraie question que se posent tous les médias, c'est jusqu'où les médias ont-ils la liberté de s'exprimer? Ça, c'est encore un autre débat. Est-ce que la liberté aurait une limite? Peut-on tout dire? Peut-on tout montrer? Et le dire n'importe comment? Ça, c'est encore autre chose. Mais il est certain qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des différentes réactions que l'on peut avoir. Ou bien on peut rester camouflé chez soi, et dans ces cas-là, la terreur a gagné. Ou alors on peut dire, eh bien non, je vais vivre au niveau de liberté que mon pays me donne. C'est-à-dire je suis libre de mes mouvements. Et comment un pays peut-il survivre à des attaques terroristes? Eh bien, il y a 3 points auxquels j'ai pensé. La Bible nous dit dans Jean au chapitre 17, parce qu'on sent que l'atmosphère a changé en France. Il y a, j'étais au marché, je ne sais plus, vendredi matin, et tout le monde parlait de cela. Mais c'était vraiment, le marché était un endroit où il y avait des gens. Mais à l'extérieur, moi je vois dans les rues de mon quartier, il n'y avait pratiquement pas de voitures. C'est comme si la France est en pause, la France est en réflexion, la France ne sait pas à quoi s'attendre. Et pour nous chrétiens, nous devrions savoir à quoi nous attendre. Alors, à quoi nous attendre ? Eh bien, Jean chapitre 17 nous donne la prière de Jésus au verset 15. Et Jésus a prié le Père en disant « Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. » Dans 2 Thessaloniciens, du mauvais, non pas simplement de la personne du diable, mais de toutes les œuvres des ténèbres. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, il nous est dit « Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du mauvais. » On sait qu'il nous garde parce que, comme il est dit dans le psaume 103 ou même dans Hébreux au chapitre 1, il nous est parlé des anges et il nous est dit au verset 14 « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu ?» envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc, en ce qui concerne la maison de la foi, ceux qui mettent leur confiance dans le Dieu vivant, eh bien, la Bible nous dit que nous avons une alliance avec le Père. Il nous a présenté son alliance, nous l'avons acceptée, et dans l'alliance, il y a la protection. Donc, nous n'avons pas besoin de décider en fonction de la peur, nous devons prendre des décisions en fonction de ce que nous savons, en fonction de celui qui nous protège. Bien sûr que nous avons, et je rends grâce à Dieu, parce que nous avons un service de sécurité en France qui est vraiment bon. Nous avons des forces de sécurité, la police, la gendarmerie, etc., qui sont vraiment très bien formés, le service du RAID, du GIGN, etc. Et ils sont bien formés. Donc du coup, j'ai regardé le moment de l'assaut des services du RAID, hein, qui ont donné l'assaut dans les deux sites en même temps, et à Dammartin et à la porte de Vincennes. Et en quelques minutes, d'abord la sagesse de donner l'assaut en même temps, mais en quelques minutes, c'était réglé. Et il n'y a pas eu un otage, grâce à Dieu, il n'y a pas eu un otage de tuer au moment de l'assaut. Donc, c'est vrai que nous pouvons dire, nous avons des forces humaines qui sont top. Donc, merci Seigneur de ce que nous vivons dans un pays comme la France. Ma mère me disait, elle était choquée l'autre fois, elle m'appelait, et elle me disait, tu sais, j'ai entendu quelqu'un du GIGN ou d'une force comme cela qui a été interviewée, et qui disait, quand je me suis présentée pour entrer dans ce secteur de la protection, de la sécurité, nous étions 100 candidats. Et quand nous avons, au bout du compte, quand il s'est agi de remettre les diplômes et d'être acceptés, nous étions 5. Et j'imagine que les 100 qui se sont présentés avaient déjà été sélectionnés et que ça n'était pas des mauviettes. Mais l'entraînement est tellement intense, leurs nerfs sont testés, leurs degrés de stress sont testés, de réactivité. Ils apprennent à travailler en groupe, c'est-à-dire que les individualistes n'ont pas leur place dans ce genre de force là. Mais nous devons nous rappeler que bien que nous sommes extrêmement bien équipés humainement ou même technologiquement pour notre sécurité, ça ne suffit pas. Vous avez des fanatiques qui sont prêts à frapper n'importe qui, n'importe où. Si vous voulez, humainement, eh bien, on a de quoi se sentir dépassé, d'autant que depuis quelque temps, on sait qu'il y a au moins 1000 personnes qui sont allées se faire former par les islamistes en Syrie. On pourrait dire, mais ça c'est un chiffre officiel. Mais officieux, c'est quoi ? Et puis, qui est revenu ? Ont-ils l'intention de revenir ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on peut, il y a tous ces paramètres, mais en tout cas, pour nous chrétiens, nous devons nous dire qu'il y a un autre niveau de sécurité, et celui-là dépend de mon alliance avec Dieu, et Dieu, lui, s'est déjà engagé à garder son alliance envers moi. Vous savez, à Paris, il va y avoir le nombre de chefs d'État qui vont venir à Paris défiler aux côtés de notre président, ce nombre augmente. Hier déjà, Bibi Netanyahou a déjà dit « Moi, je viens ». Pourquoi ? Parce que nous avons le même problème. Finalement, on se rend compte que oui, eh bien, on a le droit de se défendre. Hein. Et du coup, Mahmoud Abbas a dit « Moi, je viens aussi ». Mais tous les chefs d'État qui vont venir, Angela Merkel a dit, une des premières a dit « Moi, je viens également ». Cameron a dit « Moi, je viens représenter ». Parce qu'ils ont les mêmes challenges que la France. Et ils le savent, eux, ils le savent. Mais tous ces chefs d'État, bien sûr qu'ils savent que la sécurité... S'ils viennent en France, vous imaginez, je ne crois pas que ces chefs d'État iraient manifester au Yémen. Mais ils savent que la France... un service de sécurité qui est top. Avant que vous soyez arrivé à l'aéroport, on sait déjà où vous êtes et qui vous êtes. Mais, je vais vous dire, ces chefs d'État-là, ils ne vont pas simplement s'appuyer sur la sécurité de la France, ils vont s'appuyer sur leur propre sécurité. Je vous garantis que Bibi Netanyahou, quand il a pris la décision de venir en France, c'est parce qu'il y a de grandes chances que son propre service de sécurité savait déjà qu'il pouvait assurer sa propre sécurité sans même le nôtre. Je suis sûre qu'il collaborait avec la France, et ils l'ont fait d'ailleurs. Hein. Mais ils ne vont pas s'appuyer simplement sur les forces de sécurité du pays qui va les recevoir. Nous, nous sommes dans ce pays. Bien sûr, nous avons notre sécurité. Mais la plus grande sécurité, c'est dans celui qui ne veille ni ne dort. Celui-là est ma sécurité. Celui qui a promis qu'il veille sur moi. Celui qui a mis ses anges à ma disposition. Parce que je vais vous dire, sinon, on ne prend plus l'avion. Sinon, tu n'amènes plus tes enfants à l'école. Sinon, tu ne vas plus dans les supermarchés. Alors, et il y avait, hier, quand je faisais mes courses, là, donc il y avait des personnes qui parlaient en parlant de ce fameux carnaval de Nice. Et alors, apparemment... ce carnaval de Nice, là, cette année, ils ont décidé, je n'ai pas trop suivi le truc, mais ils ont décidé d'associer une parade gay ou les homosexuels, je ne sais pas trop comment. Et alors, il y avait une dame qui disait, « Ah, moi, cette année, hein, avec tout ce qui se passe, là, en parlant de ces attentats, eh bien, je n'amène pas mes enfants au carnaval de Nice. » Et ma question est, mais même avec cette histoire d'homo, je ne les amènerai pas au carnaval de Nice. Déjà ça, donc on ne parle même pas du reste. Et je me suis dit, bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais bon, alors je ne sais pas s'ils vont le maintenir, s'ils vont l'annuler ou pas. Moi, je prie dans un sens. Parce que mettons en avant les valeurs morales de la Bible. Mais en tout cas, je vais vous encourager... ne résister à la peur. D'ailleurs, il y avait un titre qui avait marqué « Résister, mais résister ». C'est exactement ce que Marie Durand, cette protestante qui a été enfermée pendant des années dans une tour à cause, donc pendant, c'était une huguenote. Et donc, elle a été enfermée dans une tour à Aigues et à l'intérieur de sa cellule, elle avait mis « résister ». Je crois que 30 ans, elle a été enfermée. « Résister ». La manière de résister, c'est quoi ? C'est de ne pas céder. De ne pas céder à la peur. Hein ? Donc ça, c'est une des premières choses pour qu'un pays continue à vivre. C'est de ne pas céder à la peur. Bien sûr, nous savons dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, que notre protection est activée par nos paroles. Il nous est dit, au chapitre 18, au verset 20, il nous est dit, c'est du fruit de ta bouche, de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je suis étonnée du nombre de personnes qui disent « ça me tue ». Mais pour des trucs bêtes, ils ne parlent parle même pas d'une bombe. Il ne parle pas d'un malfaiteur qui les attaquerait. Il parle de quelqu'un qui leur a grillé la priorité. Ça me tue de voir des choses comme ça. Eh bien, au moins, on sait comment tu vas mourir, toi. Et la Bible nous dit que ta protection, selon ce verset, il y en a plusieurs, hein, mais ta protection est activée pas simplement parce que Dieu a passé un contrat avec toi. Ta protection est activée par ce qui sort de ta bouche. Vous savez, avant de monter dans un avion, en général, quand je passe la porte, je mets ma main sur la carlingue de l'avion. Là, évidemment, je ne vais pas arrêter tout le monde. Attendez, là, je prie. Hein, bougez pas, là. Vous attendez avant de me demander mon passeport. Une minute. Non, mais je prie juste, Seigneur, je veux te remercier de ce que cet avion, il a été créé pour moi. Il m'amène là où je dois arriver. La mécanique de cet avion est en parfait état. Les pilotes et tout son équipage ont la sagesse de Dieu. L'onction de Dieu est sur eux. Les anges entourent cet avion, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Et au nom de Jésus, je mets le sang de l'agneau sur ça. Alors, ça me prend très peu de temps, hein, le temps d'arriver. Et amen, quand je touche la carlingue. Et tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Amen. Alors ça, c'est une chose, se souvenir de qui dépend notre protection, de notre grand Dieu. La deuxième chose pour qu'un pays survive au terrorisme, eh bien, c'est de prier. Prier, évidemment, prier pour les familles des victimes. Et je n'imagine pas. Hein, il y avait un père qui s'est. Sa femme lui a demandé d'aller chercher de la nourriture pour le Shabbat qu'ils allaient préparer. Il a pris son fils de 3 ans, il est allé au supermarché. Quoi de plus naturel? Il savait ce qui allait se passer. Shabbat était là, il savait ce qui allait se passer. Et puis, ce terroriste est entré. Bon, lui, il a pris son fils et il a eu le réflexe d'aller se cacher dans une chambre froide. Je n'imagine pas, pendant qu'il protégeait son fils de 3 ans du froid, ce à quoi il a dû penser. Dieu les a gardés, Dieu les a gardés. Mais qu'en est-il de ceux, des familles qui ont été abattues tout de suite? Qu'en est-il de la famille de cette policière? Qu'en est-il? Vous savez, il y a quelque chose qui est normal dans l'être humain parce que c'est un sentiment qui vient de Dieu. C'est un sentiment de revanche. C'est un sentiment de justice. C'est « tu vas payer ». Et à cause de ce sentiment de revanche, s'il n'est pas bien canalisé et si on ne sait pas que faire de ce sentiment qui est normal, tu sais, si on viole ta sœur et que tu n'as pas un sentiment de revanche, si on tue à bout portant ton père et que tu n'as pas un sentiment de revanche, je me demande à quel point tu es émotionnellement stable. C'est normal d'avoir ce sentiment. C'est normal que justice soit réclamée. C'est normal que l'on dise « je veux qu'il paie ». C'est normal parce que c'est la pensée de Dieu. Mais, ou bien on peut faire justice soi-même, et c'est ce qui se passe en Corse. Et cette île, elle ne va nulle part. Elle a un potentiel extraordinaire. Mais vous avez cette fameuse vendetta, des familles qui, des générations après, sont en train d'essayer de se faire justice. Ça ne mène à rien. La justice humaine ne mène à rien. Mais on peut se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, voilà, ce sentiment-là de vengeance, ce sentiment de justice, eh bien, je vais te le donner. Je vais te demander, toi, de faire justice. Et en revanche, toi, mon Dieu, eh bien, tu vas me donner ta paix. Tu vas me consoler. La Bible nous dit, dans Hébreux, je vais vous lire le verset également, Hébreux au chapitre 4, il est dit au verset 15 et 16, il est dit, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. C'est-à-dire, il est capable de souffrir avec nous. Il y a une double négation là. Au contraire, notre grand prêtre ou sacrificateur, donc Jésus, a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Ici, ce que les familles des victimes ont besoin, c'est la grâce de Dieu. Ces familles ont besoin de cette puissance de Dieu qui va les garder dans la paix, qui va fortifier leur cœur, qui va les aider à vivre ces moments de séparation brutale d'avec leur bien-aimé. Une autre version nous dit « Car nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. » Le Seigneur, qui est le souverain sacrificateur, le bon berger, comprend ce que ces familles endurent. Mais bien sûr qu'il y a les familles des victimes, mais il y a les familles, même des terroristes. Peut-être qu'il y a des membres de sa famille qui se réjouissent à l'idée de ce que ces terroristes ont fait. Mais moi, je crois qu'il y a aussi des membres de ces familles-là qui sont horrifiés qu'un des leurs ait pu commettre de tels actes. Et ces familles vont vivre avec le poids de la culpabilité, même s'ils ne sont pas directement responsables. Ces familles sont marquées à vie. Donc, nous devons prier pour les familles des victimes. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus dit « Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'autre que lui, pour vous venir en aide, afin qu'il soit toujours avec vous. » Une autre version dit « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Ces familles ont besoin d'être consolées. Et à vrai dire, il n'y a pas, si vous voulez, une consolation taille unique. Non, la douleur de chaque famille, de chaque membre de chaque famille est unique. Et il y en a un qui est à même de les consoler, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous pouvons prier pour toutes ces personnes-là. Il y a des communautés aujourd'hui qui souffrent. Vous imaginez la communauté juive, où c'est comme si quelque chose s'était passé, qu'il y a un de nous qui ait été tué. Et, je veux dire, aujourd'hui, on se rassemble, il y aurait un poids sur cette assemblée. Donc, ces gens qui souffrent, eh bien, nous devons prier pour que le Saint-Esprit puisse exercer son ministère de consolation. Et puis, non seulement nous prions pour les familles des victimes, mais nous devons prier pour le gouvernement également. Parce qu'il est facile de critiquer, il est facile de dire « oui, mais si », mais en tout cas, nous ne sommes pas à leur place. Mais ils sont devant des décisions qui sont importantes. Il y a des budgets qu'ils doivent peut-être redispatcher. Il y a des priorités qui ont peut-être changé. Il y a peut-être des changements de poste qui doivent s'opérer. Il y a peut-être d'autres personnes qui doivent être nommées. Notre gouvernement, on le sait, se réunit en urgence, mais on doit apporter notre provision spirituelle à ce gouvernement. Nous devons les placer sous la sagesse de Dieu. Dans Proverbes, chapitre 11, verset 14, il est dit « Un peuple périt quand il n'est pas dirigé. » Il est dit « Un grand nombre de conseillers assurent la victoire. » Une autre version dit « Un peuple mal gouverné va à sa perte. » Alors on pourrait dire « Ah oui, mais tu sais, au-delà de toute considération politique, au-delà de toute philosophie politique, eh bien, nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons prier pour notre président, prier pour chaque membre du gouvernement. Une autre version dit « Quand l'art de diriger fait défaut, le peuple tombe. » Une autre version dit « Faute de politique, un peuple tombe. » Et puis, nous connaissons 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Il est dit « En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité. » Donc, à la place de roi, nous ne sommes pas sous une royauté, donc une république, une démocratie, nous prions pour le président et le gouvernement, et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Ce qui veut dire que le fait que nous prions pour eux va contribuer à une vie paisible et tranquille. Et vous avouerez que le fait qu'il y ait une vie paisible et tranquille, que l'on connaisse cette douceur de vivre à la française, nous sommes connus pour notre douceur de vivre, eh bien, pour qu'il y ait une douceur de vivre qui subsiste en France, la responsabilité vient de l'Église. De ce qu'elle apporte son soutien spirituel au président et au gouvernement. D'accord ou pas d'accord avec toutes leurs décisions, eh bien, nous devons de prier pour chacun d'eux. Et la Bible dit que la vie paisible dépend des prières de l'Église. Waouh ! Ça aide à prier. Ma question est, comment un pays où survit-il au terrorisme ? Nous devons nous souvenir qui est le protecteur. Mon protecteur, mais le protecteur de la nation. Également, prier pour les familles des victimes. Évidemment, prier pour les victimes qui sont en vie, parce que le choc psychologique est énorme. Il va falloir qu'ils réapprennent à vivre maintenant. Prier pour le gouvernement, ce qui est un challenge, c'est qu'ils prennent des décisions de manière à n'exclure personne. Parce que c'est vrai que quand on se promène, et puis que l'on voit, ce qui est le plus flagrant, une femme qui est voilée à la musulmane, on sent les gens, ils disent rien, mais il y a un malaise. Je me souviens, après le 11 septembre, eh bien, j'avais emprunté un vol pour me rendre aux États-Unis, et ce n'était pas une femme voilée qui est entrée, c'était quelqu'un qui était de toute façon musulman, parce qu'il y a une taille de barbe qui fait dire que. Et il y a eu comme un espèce de silence quand il est rentré dans l'avion parmi ceux qui étaient déjà assis. Et puis, tout le monde a commencé à dire « Où va-t-il s'asseoir ?» Et à vrai dire, à ce niveau-là de l'histoire, ça n'avait plus aucune différence où il s'assierait. Mais l'ambiance était un petit peu à l'intrigue. Et quand l'avion a décollé, eh bien, on voyait que les hôtesses essayaient de détendre l'atmosphère en lui parlant avec un sourire. Je ne sais pas si c'était pour se rassurer, elle, ou... Bon, j'imagine le gars, il est déjà filtré avant, mais quand même, hein, on ne peut pas s'empêcher qu'il y ait... Donc, il faut se garder de stigmatiser. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont peur, qui ont peur d'être violentés, qui ont peur d'être stigmatisés. Et il faut se dire que la plupart des musulmans, eh bien, ne veulent pas de cela. Je dirais qu'ils ne veulent pas de cela parce qu'ils ne lisent pas le Coran. Parce que s'ils lisaient vraiment et qu'ils pratiquaient, ils verraient qu'ils ont pour ordre de soumettre les mécréants et les infidèles, premièrement les juifs et les chrétiens, à la loi du Coran, c'est-à-dire à la charia. Donc ceux qui ne veulent pas de cela, c'est parce qu'ils ne savent pas. Et ce sont des gens qui sont sincères, ceux-là. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont nés dans cette religion-là. On leur a appris à donner un nom à Dieu. On leur a appris certaines manières de s'approcher de Dieu. Et bon, voilà. Mais en tout cas, il faut prier. Ce qui m'amène à dire que non seulement on va prier pour, je continue donc, les familles des victimes, pour le gouvernement, pour le maire en particulier, hein, notre maire à nous, Monsieur Estrosi, parce qu'il doit assurer la prospérité de cette belle ville de Nice. Et je n'ai aucun doute qu'il fournit tous les efforts pour cela. Proverbe chapitre 11, verset 11, mais à lui tout seul et son équipe, il ne peut pas le faire. Hein. Les chrétiens doivent s'impliquer spirituellement dans la prospérité de la ville. Il est dit, une cité s'élève par la bénédiction due aux hommes droits. Elle disparaît par la bouche des méchants. Le chapitre 29 du livre de Jérémie, et les juifs prient. Ils savent qu'ils doivent prier pour la ville, et c'est à cause de ce verset. Jérémie 29, verset 7, il est dit « Soyez soucieux de la prospérité de la ville où je vous ai déporté et intercédez pour elle auprès du Seigneur. Sa prospérité est la condition de la vôtre. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. » Donc c'est, si vous voulez, l'Écriture qui trouve son pendant, je dirais, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, où il nous est dit de prier pour les autorités. Donc il faut que l'on prie pour le maire de la ville où nous sommes. Hein. Il y a des personnes qui viennent ici à l'église, qui sont d'autres villes. Eh bien, vous devez apporter votre provision spirituelle. Et le Seigneur, saura parler à ce maire. Il saura parler à tous ceux qui l'entourent. Bien sûr, nous devons prier également pour les forces de l'ordre. Dans Romains au chapitre 13, au verset 1 et 2, il est dit « Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir, car toute autorité vient de Dieu. » C'est-à-dire le principe même de l'autorité. « Celles qui existent ont été établies par lui. » Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il s'en sert à travers, justement, les forces de sécurité. Il est dit, car elle est au service, l'autorité est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, crains-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle a le pouvoir de punir. Elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pas normal de vouloir faire partie du GIGN, ou ça n'est pas normal de vouloir faire partie de la police. C'est pas normal, ces choses-là. C'est-à-dire, ils ont un appel de Dieu sur leur vie. Parce que sinon, tout le monde se précipiterait à cette la candidature. Je voudrais faire partie de la sécurité de mon pays. Tout comme ça n'est pas normal d'être instituteur, de vouloir retransmettre le savoir à des enfants. C'est un don de Dieu. Et pour ceux qui ont répondu, parce que si on n'a pas ce don-là, on ne peut pas rester. Leurs nerfs sont mis à telle épreuve. Mais je ne crois pas qu'on imagine également que les nerfs des familles, des forces de l'ordre sont mis à dure épreuve. Moi, je vois, par exemple, mon frère qui est qui est pompier. Eh bien, quelquefois, il rentre à la maison et il est touché par ce qu'il a vu. Mais quand vous êtes confronté à la violence, comme la police, la gendarmerie, GIGN, RAID et tout cela, eh bien, vous rentrez à la maison et vous risquez de faire des dégâts quelquefois dans votre propre maison. Parce que ce que vous avez vu au travail est tellement dur. Donc, nous prions, et les chrétiens prient, bien sûr que les juifs prient, et nous devons nous rappeler de diriger, d'apporter notre soutien spirituel à toutes ces familles. Puis il y a un dernier groupe pour lequel j'aimerais que l'on puisse également prier. Eh bien, ce sont pour les islamistes qui sont sur notre territoire. Il y en a. On sait qu'il y a 900 suspects qui ont été arrêtés, là, hier. Je ne sais pas s'ils ont commencé avant-hier, mais au moins hier. 900 dans toute la... Est-ce qu'il n'y a que 900? Personnellement, j'en doute. Pourquoi? Parce qu'il y a des semences de violence et de haine qui ont été déjà plantées dans le cœur de gens. Et ces semences-là ne se sont pas encore exprimées parce qu'elles n'ont pas grandi suffisamment. Mais elles sont déjà plantées dans le cœur de certaines personnes. Si vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 9, la Bible nous parle d'un fondamentaliste qui a été intercepté par le Seigneur. Un fondamentaliste, un extrémiste, c'était un fanatique à sa manière. cet homme avait assisté à la lapidation d'un chrétien qui s'appelle Étienne, et il avait pu assister jusqu'au bout. Vous savez, à moins qu'on ait le cœur grandement endurci, on ne peut pas regarder quelque chose comme cela. Déjà, si on sait que quelqu'un s'est renversé par une voiture, bon ben certains ont réflexe de se précipiter pour aller soigner, d'autres disent non. Vous savez, hier j'ai amené mon petit chien chez le vétérinaire, quelque chose d'une autre dimension, et il se trouve que l'ongle était fendu. Donc, un ergo. Et alors le vétérinaire, il me dit, oulala, regardez. Puis il me tend ses lunettes, il dit, tenez, regardez, vous allez voir, l'ongle est fendu, donc il fallait le retirer. Et je dis, mais moi je ne veux pas voir ça. Rien que ça. Mais vous imaginez une lapidation. Et cet extrémiste-là était en train de voir un homme tué à coups de pierre. Et juste, il portait un manteau. Son manteau, de celui qui était en train de se faire lapider. Puis la Bible nous dit qu'après, il est allé chercher des lettres auprès des gouverneurs afin d'enfermer les chrétiens, afin de les persécuter. Bien le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était quelqu'un qui était violent. Et de qui est-ce que je parle ? De Saul de Tarse, qui est devenu le grand apôtre Paul. Paul. Et nous savons, ne serait-ce que d'après ce passage-là, que Dieu est quelqu'un qui peut arrêter quelqu'un, un fondamentaliste, dans sa folie. Mais il peut le faire si l'Église prie, ce qui était le cas. L'Église priait. Et le cœur de Paul, de Saul de Tarse, a été tellement changé que cet homme-là a bouleversé toute la région du Moyen-Orient par la parole de sa prédication, en invitant les gens à se réconcilier avec Jésus-Christ. Donc, le Seigneur sait où se trouvent ces fondamentalistes-là, ces islamistes. Il sait exactement qui est sur le territoire, qui est sur le point d'entrer sur le territoire, de quelle manière il va s'y prendre et ce qu'il a l'intention de faire. Donc nous pouvons nous demander à Dieu de les arrêter. Il nous est garanti que nous pouvons prier pour que les projets, ça je le fais, je vous assure, quand je vais à l'aéroport Charles de Gaulle, il y a quelque chose sur cet aéroport qui est fortement antipathique. Il y a une raison, je ne sais pas. Et quand je dois poser les pieds dans cet aéroport, je prie. Et je dis, Seigneur, tout ce qui se trame ici au nom de Jésus est exposé par ta lumière. Je sais que je ne suis pas la seule personne à prier pour ça, mais quand je passe, il y a un quartier derrière Notre-Dame il n'y a pas seulement qu'un marché. Quand je passe là, eh bien, je prie et je dis, Seigneur, ce qui se trame contre la prospérité de cette ville, ou de la France, eh bien, dans le nom de Jésus, je déclare que c'est dévoilé. Je déclare que la police est là où elle doit être. Les renseignements généraux sont là où ils doivent être et ils vont être là où ils doivent être. Ils vont entendre ce qu'ils doivent entendre, voir ce qu'ils doivent voir. Et ce sera plus facile si nous prions. Donc, oui, nous devons prier pour les islamistes. Alors, un premier point, eh bien, je vous l'ai dit, nous devons nous rappeler que notre protection est en Dieu et ne pas céder à la peur. Deuxièmement, nous devons prier. Et puis, troisièmement, c'est mon dernier point, eh bien, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va nous conduire avec sagesse. Dans Jean chapitre 14, au verset 27, eh bien, il nous est dit d'abord, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. » La paix de Dieu en nous est déjà un guide. Dans Colossiens chapitre 3, il est dit que la paix de Dieu agit comme un arbitre. Et que fait un arbitre ? Eh bien, il siffle s'il y a faute. Et l'Esprit de Dieu va faire vaciller cette paix-là, s'il y a quelque chose de dangereux qui va se passer, ou si nous ne devons pas nous rendre là où nous avions l'intention de nous rendre. Dans Romains chapitre 8, au verset 15, il est dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous les enfants de Dieu et qui nous permet de crier à Dieu, Abba, ô mon Père. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est dit, ça n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse et de maîtrise de soi. C'est-à-dire que ce même esprit, ce même Saint-Esprit qui nous a été donné n'est pas un esprit de peur, mais il est un esprit qui va nous aider à nous maîtriser. Parce que tu sais combien de gens font des accidents à cause de la peur, parce qu'ils n'arrivent plus à se maîtriser. Des gens qui, on sait par exemple sur un autre chapitre, mais des gens qui ont été ruinés parce qu'ils se sont précipités pour vendre des actions parce qu'ils ont entendu une mauvaise nouvelle. Des gens qui se sont suicidés en entendant une mauvaise nouvelle parce qu'ils ont cédé à la peur plutôt que de faire face à la ruine qu'ils n'auraient peut-être jamais connue. Donc, la peur paralyse. Vous avez déjà vu un animal, un lapin paralysé devant les feux de la voiture en pleine nuit. Et t'es là, tu dis, mais pars. Hein, bon, si on a le temps, bien sûr, on s'arrête. Mais bon, ça c'est si on a le temps, quand même. Donc, le diable utilise la peur. La peur, il utilise la peur pour impressionner les gens, afin que les gens eux-mêmes prennent des mauvaises décisions et se fassent du mal. Donc, nous n'avons pas reçu cet esprit de peur et nous n'avons pas à céder à la peur. Mais l'Esprit de Dieu va nous conduire et va nous conduire par la paix. Mais tu sais, tu ne seras jamais conduit par l'Esprit de Dieu si la seule communion que tu as avec Dieu, c'est le dimanche matin. Parce que avec Dieu, c'est vrai, au début de notre marche avec lui, eh bien, Dieu va répondre au temps d'urgence. Quelqu'un peut-être n'est pas habitué à consulter les Écritures, à connaître la pensée de Dieu, à connaître le caractère de Dieu. Et il y a quelque chose qui lui arrive et il se précipite, il court, il prie et Dieu le sort de là. Mais quand on connaît le Seigneur depuis quand même pas mal de temps, Dieu s'attend à nous conduire dans tous les domaines de notre vie à travers la communion normal que nous avons avec quelqu'un que nous aimons. C'est-à-dire que pas de tourisme dans notre relation avec Dieu. Pas d'à-coup, mais une vie avec Dieu, une marche avec Dieu, une communion régulière, une conscience de Dieu que l'on développe. Et on apprend ces choses-là. Bien sûr, c'est pour cela notamment que notamment cette église offre différentes manières de connaître le caractère de Dieu afin que dans votre vie de tous les jours, vous sachiez qui se tient à vos côtés et comment il vous guide. Mais nous nous souvenons Dieu est notre protection. Lui, il est notre protection. Deux, nous prions. Nous prions pour les victimes, les familles des victimes, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour notre maire, nous prions pour les services de sécurité, nous prions pour les terroristes, ceux qui ont des intentions malsaines vis-à-vis de notre pays. Et puis troisièmement, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Si Dieu te dit « va », tu y vas, peu importe ce qui se passe. Si Dieu te dit « n'y va pas », alors tu n'y vas pas. Mais ça, c'est dans tous les petit domaine de notre vie. Donc, habituons-nous à la voix de Dieu. Alors, ce que j'avais demandé, c'était à Sofiane de nous donner un témoignage. Il est possible de reporter, vous devez y aller. On verra, mais ce sera reporté, d'accord. Non, vous devez y aller, il n'y a pas de problème. Oui, ça peut arriver, il n'y a pas de problème. C'est OK. Donc, je lui avais demandé à Sofiane de nous donner un témoignage qu'il m'a reporté dimanche dernier. Je me suis dit, ça collerait bien avec ce message. Mais ce n'est pas grave, c'est une autre fois. J'aimerais vous lire le psaume 91. Et avant de prendre des décisions, eh bien, lisez, parlez ce psaume. Il est dit, « Qui se place à l'abri du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu. J'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi, et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge si tu as fait du Très-Haut ton abri. Aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Rappelons que Dieu a dit, Abraham, je suis ton bouclier. Alors, le climat est perplexe en France, le climat est lourd et nous associons à la douleur des familles, bien sûr, mais nous ne restons pas passifs. Vous savez, une manifestation cet après-midi ne va pas tout régler. Nous pouvons aider notre pays. Les croyants peuvent aider leur pays à survivre à cette vague de terrorisme afin que le plan de Dieu pour la France s'accomplisse. Parce que Dieu a une destinée pour notre pays. Et moi, je m'attends à voir cette destinée. Amen. Gloire à Dieu.